France Culture, question du soir, Quentin l'a fait.
Dans son ouvrage intitulé « Blank Space, espace vide » en bon français, dont le titre fait référence à une chanson de Taylor Swift, l'écrivain américain David Marks avance l'idée que nous nous trouvons aujourd'hui face à un épuisement culturel. Selon lui, les artistes du 21e siècle se contentent de recycler les idées du passé en relisant par exemple l'énième remake d'un film dont nous sommes déjà familiers. Des styles propres aux années 2000, 2010 ou 2020 seraient alors impossibles à distinguer, contrairement aux chocs esthétiques qui ont marqué le XXe siècle. Alors, est-ce vrai ? Et être créatif, est-ce uniquement faire du neuf ? Faisons-nous autant preuve de créativité que nos aînés ? L'IA, l'intelligence artificielle, renforce-t-elle notre capacité à innover, à imaginer, à créer ? Deux invités chargés de notes aujourd'hui pour nous éclairer. Pierre-Michel Menger, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue titulaire de la chaire Sociologie du travail créateur au Collège de France. Je cite deux vos ouvrages, le premier, Le travail créateur, s'accomplir dans l'incertain, qui a paru aux éditions Point en 2014, et La créativité à l'œuvre, travailler contre et avec l'incertitude, c'est aux éditions JFD. Face à vous, Carole Talon-Hugon, bonsoir. Vous êtes professeur à la Sorbonne Université et titulaire de la chaire d'esthétique et philosophie de l'art de l'UFR de philosophie. Vous êtes par ailleurs présidente de la Société française d'esthétique et vous avez notamment publié l'ouvrage intitulé « L'histoire philosophique des arts ». C'est aux Presses universitaires de France en 2014. Je cite également un autre ouvrage au PUF, « L'artiste en habit de chercheur ». Merci à vous deux d'être ce soir dans Question du soir.
On revient à des choses que tout le monde connaît déjà. Les films Marvel, les films de super-héros en général. Combien de versions de Batman et Superman avons-nous vues ? Et tous les films Star Wars. À une époque où l'attention est une denrée précieuse, il faut miser sur ce que les gens connaissent déjà. On ne croit plus que le public s'intéressera à de nouveaux personnages ou à de nouvelles histoires, alors on se rabat sans cesse sur les classiques. Taylor Swift, avec ses chansons, a tellement de titres dans sa discographie. Plus de 21 chansons utilisent la même progression d'accords, une progression très courante dans les années 90. En l'utilisant, elle cherche à exploiter un sentiment de familiarité. La musique qui utilise les mêmes techniques qu'il y a 15 ou 20 ans n'apporte rien de nouveau. Le fait que la culture actuelle soit encore tributaire du XXe siècle témoigne de l'impact profond qu'il a eu sur nous.
Comment analysez-vous, Pierre-Michel Menger, les propos tenus, développés par David Marks, l'auteur américain de Blank Space ? Dans le fond, il dit les artistes contemporains sont de moins en moins créatifs parce que ce que l'on observe dans les œuvres, à travers les œuvres, il n'y a rien de nouveau.
Alors, il peut y avoir un biais de rétrospection. On a le nez collé à la vitre des 20 dernières années et on juge un siècle précédent. Et le siècle précédent, il a fabriqué toutes sortes de choses. Il y a des biais de sélection. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui a surnagé. Le patrimonialisable, c'est l'art qui a vaincu, en quelque sorte, l'aléa des choix esthétiques des uns et des autres et qui a réussi à passer l'épreuve, le test du temps. Et face à ça, évoque certains points comme la sérialisation de films à succès. Ça, c'est aussi un thème qu'on connaît. Le feuilleton au 19e siècle, c'était aussi des gigantesques séries. Et on sait aussi, par exemple, que la série peut être le premier élément d'une série d'un film de Star Wars. C'est formidable. Les gens sont étonnés. Ou Avatar. Et puis la deuxième, c'est évidemment la créativité se diminue parce que c'est un numéro 2. Puis le numéro 3, et les profits vont normalement descendant, sauf si le marketing mondial, etc.
Donc ce qui n'est pas neuf, c'est qu'on tire des fils et qu'on ressasse à la fois.
Alors, ensuite, il invoque un critère de les accords de ceci, de cela. Alors, il le dit à propos de Taylor Swift. Vous devriez lire un livre qui vient de paraître de Harvard Business School, qui dit « Taylor Swift n'a pas arrêté de se réinventer ». Quand on cite les accords, on oublie aussi que c'est un spectacle multimédia médias incroyables, vraiment, et que le génie des artistes, ça consiste aussi certainement, je ne sais pas si elle est géniale, je ne la connais pas, je n'écoute pas sa musique, mais elle peut pas se, on ne peut pas la considérer comme une sorte d'automate qui se répète indéfiniment. C'est assez absurde dans son genre, et c'est surtout probablement aussi une forme assez courante de mépris de la culture populaire qu'on connaît. Adorno, Transec, la musique de variété, le jazz, tout ça, c'était n'importe quoi, c'est rubbish. Et là, c'est pire que rubbish, c'est bullshit. Donc, moi, je suis toujours assez méfiant. Ensuite, on peut avoir son système de valeurs, et il en a un, visiblement. Et tant mieux, il l'affiche et il dit, voilà, en avant.
Votre sentiment, Carole Talon, Hugon, lorsque l'on compare le 21e et le 20e siècle, vous avez le sentiment que le 21e est moins créateur que le siècle dernier ?
Mais la première chose que je dirais, c'est que les exemples que donne David Marx sont tous empruntés justement à ce qu'on pourrait appeler l'art de masse. Donc déjà, c'est un biais que de considérer ce type d'œuvre plutôt que l'ensemble de la production, qui est évidemment beaucoup plus complexe si on ne regarde pas du côté de Taylor Swift ou des blockbusters. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, il me semble que justement parce que ce sont des arts de masse et qu'ils passent par des procédés techniques, par un réseautage planétaire du numérique hein, qui s'est imposé depuis les années 90, eh bien, ce type de moyen de production, je ne vais pas tout à fait à l'encontre de ce que vient de dire Pierre-Michel Mingard, mais tout de même, je pense que ce type de moyen de production engendre une forme de standardisation qui tient simplement au fait que, dans la mesure où c'est planétaire et où ça doit pouvoir atteindre des individus les plus divers, issus de tous les coins du monde et de toutes les couches culturelles, etc., eh bien, il faut en quelque sorte enlever ce qui serait trop spécifique et qui ne pourrait pas justement avoir un succès général.
Donc ce qui aplanit les choses, ce qui retire les aspérités de ces œuvres, c'est la nécessité qu'elles soient diffusées mondialement ?
Eh bien, le fait qu'elle vise une diffusion effectivement planétaire fait que le public mondialisé ne peut pas être un public, comment dire, on ne peut pas penser une œuvre pour une communauté. Il faut que ce soit justement donc d'où une forme de simplification des significations, des choses qui sont comment dire plus standardisées effectivement. Mais à ce moment-là, ça ne tiendrait pas tant à une sorte de baisse de créativité qu'à un effet de la technique même de diffusion et de production de ces
œuvres. Vous êtes d'accord, Pierre-Michel Menger, les effets de la mondialisation, c'est l'avenir ?
C'est toujours des couches. Vous avez une couche de succès mondiaux et planétaires qui sont atteints beaucoup plus rapidement qu'avant. Les technologies le permettent. Les industriels savent très bien se servir de ça. Et le formatage peut agir d'une certaine manière. Mais si c'était très simple à faire, tout le monde s'y collerait et il y aurait beaucoup de gens qui obtiendraient des succès faramineux, ce qui n'est pas le cas. C'est toujours la même histoire. C'est une loi de Pareto, 20% des artistes raflent 80% des revenus. Par-dessous cette couche mondiale de succès mondialisé qui est assez bien préparée et l'industrie sait faire, il y a aussi une énorme production plus locale, nationale ou transnationale, mais la créativité n'est pas étouffée par ça, ou alors ça voudrait dire que la prolifération des succès planétaires tue la créativité locale. Ça, on ne le constate pas. Il y a de plus en plus d'artistes dans les professions artistique, les gens essayent. L'industrie, évidemment, s'ingénie à chercher sans arrêt des nouveaux talents, attire beaucoup de monde et reporte une partie du risque sur les individus qui s'essayent à faire carrière, évidemment. Et dès qu'elle a... Ça, c'est la phase exploration. Et la phase exploitation, c'est quand on a trouvé la perle rare, alors on met le paquet, évidemment. Et des artistes de ce type-là sont cet ordre. Mais derrière
ça... c'est la logique économique et commerciale
ça, c'est une logique économique
au phénomène que vous décrivez.
Oui, et qui n'est pas non plus... Un calcul pur et parfait, parce que je racontais encore ce matin dans mon cours au Collège de France que si on trouvait la recette du succès, on ne ferait que des succès. 11% des films se remboursent de leurs dépenses. 11% des films. Ça veut dire « nobody knows ». Mais quand on en trouve, alors là, on y va gaiement. Hein, et après tout, Taylor Swift, elle a eu sa phase de démarrage incroyable, puis ensuite, d'après ce que j'ai lu, moi, je m'intéresse plutôt à la musique classique, et on pourrait en parler aussi. Est-ce qu'il y a un épuisement de la créativité dans la musique contemporaine? On peut en discuter très longtemps. Je pense que les compositeurs ne seront pas tout à fait d'accord pour le dire, et ils n'ont pas ce succès-là non plus. Il ne faut pas non plus oublier que des arguments de... Et ça, vous l'avez dit, Carole, c'est la culture de masse ou la culture qui prétend un succès mondial, la musique étant le territoire par excellence de cette affaire-là, parce que c'est un art qui est consommé de manière massive avec toutes les technologies imaginables. Mais il y a d'autres segments. Il y a le Stade de France pour ses succès-là et il y a la Philharmonie de Paris qui affiche des records de fréquentation.
Carole Talon-Hugon, il y a une autre idée qui est développée par David Marx dans son ouvrage Blank Space. C'est l'idée selon laquelle il est de plus en plus difficile au XXIe siècle pour les artistes de transgresser. Or, l'art, la création, la créativité se fondent justement sur la capacité des êtres à transgresser. Est-ce que vous êtes d'accord avec les propos de David Marx dans ce domaine? Cette difficulté propre au XXIe siècle à transgresser?
Alors, d'une part, je reviens sur ce que je disais, à savoir, il parle, semble-t-il, uniquement de culture de masse. Et si, à l'intérieur de ce domaine, on parle de transgression, effectivement, ça n'est pas le maître mot de ces œuvres-là, qui cherchent plutôt le consensus, qui cherchent plutôt la réussite, avec toutes sortes de manières. Si on prend quelque chose qui est autre que cet art de masse technologisé, etc., sachant que l'art de masse, c'est pas l'art populaire, hein. Ça, je fais cette parenthèse parce qu'il me semble que Roger Pouivet, dans justement un ouvrage intitulé « L'œuvre d'art à l'âge de sa mondialisation », montre bien la différence entre les deux. L'art populaire, effectivement, c'est l'art issu, je ne sais pas moi, les chansons populaires ou le type d'art qui provient véritablement du peuple. L'art de masse, c'est encore autre chose, comme je le disais. Donc, dans le domaine de l'art en général, et pas seulement de l'art de masse, c'est vrai qu'on n'est pas dans la phase la plus transgressive de l'art. Ça a été effectivement une grande affaire dans les années, notamment 70, où la transgression, alors évidemment, ça a commencé bien avant avec la transgression des normes artistiques elles-mêmes, puis ensuite, lorsqu'on a tout fait à peu près en ce qui concerne les normes artistiques, ça a pu être la transgression de normes du bon goût, de la morale, etc. Ça, c'est tout à fait vrai. Mais actuellement, disons depuis une trentaine d'années, les choses se sont beaucoup calmées. On a plutôt affaire à des artistes qui endossent volontiers, au contraire, un point de vue moral.
Mais est-ce que ça affaiblit la capacité créative des artistes d'être moins capables de transgresser les normes, qu'elles soient d'ailleurs artistiques, culturelles ou morales?
Alors là, je pense qu'on a tout intérêt à dézoomer, parce que cette idée que la création passe nécessairement par la transgression, c'est une idée totalement moderne. Qui remonte au mieux au XVIIIe siècle. Hein. Mais on a fait beaucoup d'excellentes œuvres sans penser que la transgression était un ingrédient nécessaire à leur réalisation.
Pierre-Michel Menger.
Oui, deux commentaires. D'abord, en matière de transgression, c'est vrai que les artistes adorent bousculer. Moi, je pense toujours au geste de Duchamp qui met un urinoir dans une exposition et ensuite, c'est moi qui décide que c'est cet objet utilitaire, je vais le défonctionnaliser, donc je transgresse tous les codes de l'art et ça n'en a pas fini ensuite de répéter ce geste et ce geste. Maurizio Catlan a fait une œuvre ou a produit une œuvre qui s'intitule Comédia, qui est une banane accrochée à un mur, fixée à un mur, une banane, un vrai fruit, et qui a été vendue 6 millions de dollars. Bon, et l'acheteur est un mogul chinois des médias ou des technologies avancées et qui dit « je mange la banane une fois par semaine et j'en mets une nouvelle », etc. Il est très content de ça. Ça, il y a des effets de spéculation. Et Maurizio Catlan est un artiste qui a pignon sur rue, qui porte des dames collectionneuses de son art en haut d'un tas d'ordures en Italie du Sud en disant voilà, je me moque de la bourgeoisie qui m'admire. C'est tout à
fait. Ça, c'est étonnant. De la transgression.
Alors oui, c'est des transgressions multidimensionnelles. Il y a un magnifique livre d'un collègue néerlandais qui s'appelle Imaginary Economics qui raconte tout ça. Les phases successives à travers lesquelles les artistes à la fois se moquent du marché et se servent du marché. Donc, ils sont champions de ça. Dites-moi quelle est la limite, je la transgresse et on va rigoler. Et d'un autre côté, il y a le mouvement peut être considéré comme un mouvement de rupture successive comme les avant-gardes en ont rêvé. Vous voulez écrire un roman, je vais vous montrer qu'on doit casser le système romanesque, on fait un nouveau roman. Ah, vous voulez le récit, on va casser le récit cinématographique. Ah, vous voulez la tonalité, on va casser la tonalité, on va faire de la musique atonale, puis de décaphonique, etc., etc. Est-ce que ce mouvement peut être linéaire? Il ne l'est jamais. Il y a un moment où ça s'arrête. Et les romans, le nouveau roman n'a pas eu de descendance dans le même esprit, etc., etc. Moi, ce que je voudrais dire à propos de cet essai, c'est est-ce que c'est un jugement ou est-ce qu'il y a une mesure effective de la perte de créativité? Il y a des travaux très intéressants de collègues économistes qui ont voulu mesurer le fait de savoir si les idées neuves étaient plus difficiles à trouver aujourd'hui qu'autrefois en science. Et ils ont un protocole de recherche. Et là, ça devient intéressant. On peut juger sur pièce. On peut dire quel est votre...
En fonction du nombre de chercheurs, notamment.
En fonction du nombre de chercheurs, en fonction de la qualité des recherches qui percent. Est-ce qu'elles sont vraiment plus puissamment perçantes qu'avant, ou etc. Est-ce que ce sont des découvertes radicales? Ou alors, est-ce que c'est simplement l'innovation incrémentale, on fait un tout petit progrès.
À la marge, donc.
À la marge, ou alors c'est de rupture. Et voilà des idées intéressantes. Et là, on peut jouer, parce qu'on mesure quelque chose et on débat. Quand c'est un jugement, c'est un jugement.
Il y a un sous-jacent, depuis le début de notre discussion, Carole Talon-Hugon, sous-jacent selon lequel, dans le fond, la créativité repose d'abord sur la notion et de nouveauté et d'originalité. Est-ce que ce sont pour vous les deux piliers qui fondent la créativité en tant que concept?
Alors, ce qui est intéressant, c'est que le mot créativité, c'est un néologisme qui est apparu seulement dans les années 1950.
On ne parlait pas de créativité avant ça?
Non. Alors, si on remonte au verbe créer, la création, au Moyen-Âge, ça n'est réservé qu'à Dieu. Hein, créer, ça veut dire faire advenir du nouveau à partir de rien, faire advenir quelque chose à partir de rien. C'est pas comme le démiurge de l'Antiquité qui organisait un cosmos dont les éléments étaient déjà là. Hein. Donc créer, ça avait un sens véritablement très fort et c'était absolument réservé à Dieu. À la Renaissance, il commence à y avoir des auteurs comme Marcel Fissin qui pensent que la création peut être portée par certains individus remarquables, qu'on n'appelle pas encore des génies, mais enfin c'est bien cette idée, et qui donc peuvent avoir une forme de délégation de création et ajouter à l'ameublement du monde par de nouvelles beautés. Mais c'est réservé à des individus extrêmement rares. Hein, à l'intérieur du monde des artistes, qui est encore un monde de peintres et de sculpteurs qui sont encore des artisans. Et puis, effectivement, l'idée de génie va se mettre en place. Il va y avoir toutes sortes d'extensions du mot, c'est-à-dire le mot va à la fois se banaliser à travers, parce que la première qualité du génie, Kant le dit très clairement, c'est l'originalité. Le génie, c'est celui qui ne suit pas les règles de l'art, mais qui donne ses règles à l'art. D'où l'idée que le génie est, par définition, c'est sa première qualité originale. Alors, cette idée d'originalité entre dans... Alors que, au moins, je ne sais pas, un peintre d'icônes n'essaye absolument pas d'être original. Au contraire, ce qu'il faut, c'est qu'il se coule dans des règles qui sont fixées et qui sont éternelles, en gros. Hein. Donc, l'idée d'originalité est une idée qui va avec ce processus. Mais ce qui est intéressant avec l'histoire des idées, c'est qu'on voit très bien comment... progressivement, on va voir l'idée de génie elle-même être jugée extrêmement élitiste, donc peu à peu refusée. Vous trouvez ça dans le mouvement Dada, bien sûr, vous trouvez ça chez Breton, dans le manifeste du surréalisme, c'est dit très très clairement. Et donc, il y a aussi une revendication par certains artistes d'être des non-artistes. Enfin, il y a toute cette attaque de la, cette déprofessionnalisation de l'artiste qui aboutit à une dissolution et peut-être, effectivement, au surgissement de cette nouvelle notion de créativité qui, d'abord, s'applique, si mes renseignements sont bons, au monde de l'entreprise, avant de s'étendre dans tous les domaines et à pouvoir désigner aussi bien l'activité d'un auto-entrepreneur, d'un enfant qui fait un jeu de Lego, d'un artiste, d'un cuisinier. N'oubliez pas qu'Albouli, le fameux cuisinier Albouli espagnol qui a été d'ailleurs un des qui a représenté l'Espagne dans je ne sais plus quelle foire internationale d'art. Du bien d'art, hein, c'était la cuisine qui devenait un art, eh bien, a cessé de faire la cuisine pour ouvrir un laboratoire de recherche, qui est un laboratoire de recherche sur la créativité. Pour tous les dans tous les domaines, et pas seulement artistique.
Est-ce que c'est peut-être aussi pour cela, Pierre-Michel Menger, que l'on peut sentir, ou du moins ressentir, le fait que certains artistes actuellement sont moins créatifs? C'est parce qu'il y a, dans le fond, une dilution même de la notion de créativité que l'on pointe, que l'on colle désormais à des champs extrêmement divers du monde social?
Alors, il faut jamais oublier, ça c'était dans les années 50, Carole Talon-Hugon l'a dit, ça a bouillonné de ce côté-là. Un psychologue a défini, peut-être le premier, la notion de créativité. Il disait, il y a trois choses, l'élément subjectif, l'originalité, l'élément objectif, la nouveauté. Ça ne doit ressembler à rien d'avant, sinon on n'a pas de titularisation des droits sur ces trucs-là. C'est de la propriété littéraire et artistique qui est en jeu aussi. Hein. À partir du moment où c'est nouveau, on déclenche les droits
mais
pour
ça,
les artistes.
Mais c'est impossible, on remodèle toujours à partir du réel.
Alors, attendez.
Quand même.
C'est plus compliqué. La bataille qui a donné lieu à la propriété littéraire artistique en dehors du théâtre, ça c'était bon marché, mais dans la musique notamment, c'était la bataille, et la littérature, c'était la bataille entre Proudhon et Lamartine. Proudhon disait, on n'arrête pas de recombiner tout ce qu'on fait, les idées neuves, ça n'existe pas, c'est de la simple recombinaison. Lamartine dit, non, pas question, il existe de la vraie nouveauté, il y a une valeur d'émergence, quelque chose qu'on n'a jamais vu avant. Proust, pas simplement de la recombinaison de mots.
Qui vient de la personnalité. Et,
voilà, la personnalité. Personnalité, c'est le tournant expressif de la fin du 8e siècle, début du 19e siècle. La profondeur de la personnalité trouve à s'exprimer dans un langage artistique, etc. etc.
Bon, mais
il y a un troisième critère. Attends, il y a un troisième critère, cher ami. Le critère de la valeur. Il faut que ça ait une valeur pour quelqu'un. Et ça n'est pas rien. Alors, ce quelqu'un, c'est qui? Quelle est la taille des quelqu'un en question? Des autrui significatifs? Est-ce que c'est un tout petit nombre? Est-ce que c'est, comme disait ce psychologue, les gens de Greenwich Village? Ou bien est-ce que c'est les amateurs d'art de la rive gauche de la Seine? Ou bien c'est la planète entière? Et voilà un sujet intéressant. Et il ajoutait, mais ce vocabulaire et cette sémantique ont une propriété un peu perverse, c'est de pouvoir se diffuser à tout et n'importe quoi, évidemment. Et ça, c'est le thème de la subjectivation extrême de la créativité. C'est-à-dire qu'on oublie ces valeurs d'originalité et de nouveauté objective pour la prêter à tout le monde,
bon, mais
tout le monde, comme une métacompétence.
J'ai attendu, comme vous me l'avez demandé, Pierre-Michel Menger, quelle partie vous prenez-vous dans cette bataille entre Proudhon et Lamartine? Est-ce qu'on recombine à l'envie et au fond, c'est cela créé, ou bien
il
y a un
simple
surgissement créateur qui vient de la personnalité de chacun?
Si vous croyez à la recombinaison, vous signez tout de suite pour l'IA, vous prenez des parts dans OpenAI et c'est fait.
On va y venir.
Voilà. Et si vous croyez que l'œuvre d'art, elle est imprévisible parce que vous ne pouvez pas déduire du passé ce qui va arriver, alors vous signez pour la valeur d'émergence de quelque chose qui s'appelle une œuvre. Et c'est ce qui nous fascine. Quand on voit des œuvres dans les musées et qu'elles traversent le temps, ça veut dire que des œuvres sont nées à un moment donné dans un point du temps et qu'elles sont capables de traverser le temps ensuite parce qu'elles sont aussi sans arrêt réinterrogées. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que cette œuvre? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Quel problème elle résout? Quel problème elle pose? Pourquoi est-ce qu'on peut l'admirer durablement? C'est ce qui fait que les seuls biens qui sont, ou les seuls produits qui traversent le temps, ce sont des produits non utilitaires qui ne sont pas remplacés par des produits qui rendent mieux le service en question.
Je vous embête aussi un peu, hein, Carole Talon-Hugon, entre Proudhon et Lamartine, où vous situez-vous? Est-ce que, comme Pierre-Michel Menger, c'est un entre-deux, dans le fond?
Je pense qu'effectivement, on ne fait que recombiner toutes sortes de choses, comme on utilise des choses qui sont déjà là pour faire du nouveau. Mais toute manière de recombiner ne se valent pas. Et effectivement, il y a des combinaisons qui sont ce que Baudelaire appelait des œuvres phares. Enfin, les phares de Baudelaire, c'est ça. C'est-à-dire des choses qui sont non seulement originales, mais qui sont exemplaires. D'ailleurs, c'est encore une fois ce que disait Kant. La première qualité du génie, c'est l'originalité. Mais la deuxième qualité, c'est l'exemplarité. C'est-à-dire, il ne suffit pas de faire du neuf, de faire du nouveau. Mais encore faut-il que ce nouveau soit remarquable, qu'il ait un intérêt, une valeur intrinsèque.
Exemplaire dans quel sens ? Faire exemple pour d'autres ou bien être remarquable parmi d'autres œuvres ?
Alors, ce que voulait dire Kant dans sa formule, c'est que ces peintres exceptionnels faisaient en quelque sorte école en faisant surgir de nouvelles normes. Hein, qui durait jusqu'à ce qu'une nouvelle personnalité exceptionnelle combine des éléments jusque-là présents, mais d'une manière encore une fois nouvelle et peut-être plus en phase avec l'époque, le temps, que sais-je. Là aussi, Baudelaire dit que le beau, c'est à la fois de l'éternel et du transitoire. Donc cette idée de phare me paraît être finalement une très belle illustration de ça, c'est-à-dire l'originalité pour l'originalité, sachant que c'est toujours sur fond de recomposition, ça ne paraît pas être une valeur décisive. Ce qui est intéressant, c'est l'originalité lorsque elle présente un intérêt intrinsèque.
Vous avez levé la main pour intervenir, monsieur le professeur.
Oui, je pense toujours, parce que le thème de l'exemplarité est un thème intéressant. Au fond, Kant dit la valeur de l'œuvre, c'est de ne pas pouvoir être déduite du passé, et en même temps, elle est exemplaire, mais il ne s'agit surtout pas de la limiter. Donc, être exemplaire, ça veut dire, c'est comme le grand artiste qui dit, faites comme moi, trahissez vos maîtres. C'est une injonction paradoxale, je suis capable de dépasser mes maîtres et je demande à mes élèves de me dépasser moi-même, mais j'aimerais bien non plus qu'ils ne me dégomment pas tout de suite. Tout ça, ces mécanismes sont fascinants parce que un artiste veut pouvoir se survivre et avoir une influence et en même temps il accepte le jeu qui permet de penser qu'il n'est pas déduit simplement du passé.
Je reviens sur cette notion que vous avez soulevée un peu plus tôt dans cette discussion, celle de la reconnaissance par autrui, celle oui. de la valeur que l'on donne à une œuvre créée, qui signifie dans le fond que lorsqu'un enfant de 3-4 ans fait de la nouveauté, propose un dessin que nul n'avait conçu auparavant, cela n'en fait pas pour autant une œuvre à part entière. Expliquez-nous.
Oui, c'est exactement ça. Ça peut être, on peut appeler créativité une sorte de compétence qui est générique à tout un chacun, c'est-à-dire recombiner ou combiner des idées d'une manière qui n'est pas entièrement déductible de l'existant. Mais ça ne suffit pas à transformer cette compétence en quelque chose qui a de la valeur. La valeur, c'est intéresser autrui et avoir une trace, un sillon qui se creuse suffisamment longtemps pour que cet exercice-là, qui peut-être au départ le fruit du hasard, une idée qui surgit, et tout d'un coup, ensuite, il faut travailler, il faut réélaborer tout ça, il faut avancer, et c'est ça qui fait l'essence même de cet exercice-là. Et les individus accordent leur attention et leur valeur, ou valorisent les œuvres, en fonction de cette qualité-là aussi, c'est-à-dire ça n'est pas une œuvre simplement, c'est aussi une carrière dans laquelle se situent les œuvres. Et ça, c'est un autre exercice.
Je voudrais vous faire entendre la voix d'un artiste, Jason Allen. Il explique son intérêt pour l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la confection de son art.
Midjourney est similaire à d'autres plateformes qui génèrent des images à partir de textes comme OpenAI, DALL-E 2 et bien d'autres. Pour le dire très simplement, quand vous tapez, vous pouvez écrire n'importe quoi. Un poisson jaune qui nage dans un jardin fleuri. Vous obtiendrez quelque chose, le logiciel essaiera de comprendre ce que c'est et il inventera cette image. C'est un moyen de développer rapidement son imagination, car ça permet de visualiser toutes les combinaisons d'idées possibles qui vous viennent à l'esprit. Je ne partagerai jamais mon prompt. Parce que ce prompt est précieux. Et je pense que cela prouve qu'il faut de l'habileté, du temps et de la créativité.
Voilà la valeur du prompt que l'on vient de découvrir. Carole Talon-Hugon, Il y a une tension entre la création et l'intelligence artificielle. On a le sentiment qu'avec l'IA, au fond, on délègue la création à la machine. Et dans le même temps, beaucoup d'artistes, d'écrivains, de peintres même parfois expliquent qu'ils peuvent eux-mêmes se servir de l'intelligence artificielle pour enrichir leur processus créatif.
Oui. J'ai bien entendu, et ce type de discours est assez commun.
Vous semblez en désaccord.
Je ne sais pas, je répondrai de façon assez prudente, puisque je pense que la création, ça vaut évidemment d'abord pour les arts, c'est de ça dont on parle, mais ça vaut aussi pour lorsqu'on fait un livre, lorsqu'on écrit un essai, lorsqu'on fait... Et ce que, de ce point de vue-là, je parle en connaissance de cause, et il me semble que entre l'idée d'un livre et la réalisation de cette idée, il y a un monde. Je veux dire par là que le polissage des phrases, la contrainte des faits dans de la matière lorsqu'on est confronté à un matériau sensible, s'il s'agit de sculpture par exemple, il me semble que l'invention se fait au contact de cette matière, qui peut être la matière des mots, hein, ça ne change rien, et que jusqu'à ce que ce travail d'aller-retour entre l'idée, sa traduction en mots, en phrases, en formes, et le retour sur l'idée que ces formes et ces phrases active en nous, il me semble qu'il y a là un processus qui est vraiment le cœur du processus de création. Donc je ne suis pas sûre que la délégation de création dise tout de la création, signifie la création.
Pierre-Michel Menger, vous êtes d'accord ?
C'est une affaire de substitut ou complémentarité. Cet écrivain dit complémentarité. Allez hop, et je vais être suffisamment malin, je ne donnerai pas mon prompt, qui est l'essence même de la créativité, de ma créativité. Donc, je fais tourner la machine. Ce qui est intéressant, j'ai invité au colloque au Collège de France du 23 mars, à laquelle tous les auditeurs sont invités à venir, l'entrée est libre, qui sera consacrée aux arts. Le premier exposé sera donné par Jane Ginsberg, qui est une professeure de law à la Law School de Columbia, université
de droit,
à New York, de droit. Et elle a fait une expérience avec des collègues qui est fascinante. Elle a fait avaler à la machine des œuvres qui étaient assez réputées, qui avaient eu des prix, et elle les a fait juger par un public de professionnels et un public de profanes. Quand la machine avalait certains romans qui avaient été primés, le jugement du public et des experts était mitigé. C'était pas terrible, la machine avait craché quelque chose. Ensuite, deuxième expérience, on a fait avaler à la machine ou à l'algorithme la totalité des œuvres de ces artistes, de ces écrivains, la totalité de leur production. Et là, la machine a craché des choses qui ont bluffé et le public et les experts. Donc, il y a un peu de soucis à se faire.
Tout de même, donc.
Tout de même.
Que c'est un discours qu'on entend, et pour avoir organisé quelques émissions sur le sujet, beaucoup disent, dans le fond, le génie créatif, la machine ne l'aura jamais.
Ouais.
Il n'y a pas de cœur dans ce qui est capable de produire la machine, il n'y a pas d'émotion, et même, pour aller au-delà, il n'y a jamais de nouveauté, car la machine ne fait que réencoder les œuvres passées.
Alors, si ce serait le triomphe de Proudhon, mais je pense que la bonne attitude, c'est probablement celle qu'il adopte, c'est-à-dire ça va arriver, cette technologie est là et elle n'a pas fini d'évoluer, c'est encore dans l'enfance. Vous vous rendez compte de la vitesse à laquelle ça va. Donc ça va arriver, c'est déjà là, mais si on veut être malin, on va se servir de cette technologie et on va augmenter sa créativité. C'est le créateur augmenté d'une certaine manière, comme le travailleur augmenté.
Ce type d'expérience, Carole Talon-Hugo, ça ne vous inquiète pas justement ?
Alors, on a la même chose en peinture, hein, avec les fameuses expériences sur Rembrandt,
le nouveau
etc.
Rembrandt, ouais.
Donc, on donne tout.
Il faut décrire cette expérience.
Alors, l'expérience, ça consiste effectivement à donner à la machine tous les Rembrandts qui ont été produits, de manière à ce que la machine analyse et rende, par l'analyse de la typicité, là, c'est la typicité qui compte, donne un résultat qui est effectivement tellement bluffant que des spécialistes s'y cassent le nez. Hein. Évidemment, c'est un petit peu plus compliqué lorsque on n'a pas affaire à une recherche de la typicité, mais où on demande à l'algorithme, et c'est possible évidemment, de générer du nouveau et pas du typique, ce qui est encore autre chose. Mais dans tous ces cas, ce qui me semble intéressant, c'est que, bon, du point de vue de l'œuvre produite et du point de vue de la réception de l'œuvre, puisqu'il peut y avoir confusion entre une œuvre réalisée par IA ou pas, dans les cas dont nous venons de parler, les choses semblent à peu près stables. Si on considère que l'art, c'est une sorte de triptyque où il y a œuvre, récepteur et artiste, là, ce que je dis simplement, c'est que la situation que nous décrivons fait terriblement bouger l'idée d'art sur laquelle on vivait depuis, en gros, la fin de la Renaissance. C'est-à-dire cette idée que l'art est la création d'un être conscient, visant si possible la beauté, encore que ça c'est un peu plus compliqué, voire destiné à apporter l'expressivité, ça c'est le moment romantique, etc. L'œuvre est là, le récepteur est là, peut être bluffé, mais la question de la nature du producteur, donc en l'occurrence le producteur, est-ce que c'est l'artiste bohème, l'artiste académicien, l'artiste
au sens du créateur,
ou l'artiste assisté par IA, est-ce que c'est la même chose et est-ce que c'est le même art? Voilà.
Je voulais revenir, Pierre-Michel Menger, au champ particulier de la musique que vous évoquiez un peu plus tôt dans cette conversation, et à un champ que vous connaissez particulièrement bien. Qu'est-ce que vous observez dans ce domaine en matière justement de créativité? Est-ce qu'il y a un amoindrissement, un rétrécissement de la créativité, ou bien au contraire, au fond, l'histoire suit son cours?
Il y a une pluralité des recherches et des types de créations. Les avant-gardes, à un moment donné, voulaient en quelque sorte consolider le mouvement dans un flux qui aurait une trajectoire temporelle. On rompt avec le passé et on avance systématiquement, et les technologies nous aident dans ce mouvement-là qui est directionnel et linéaire. Et même certains avaient dit, depuis toujours, depuis l'origine même du langage musical, il tend vers son abolition sous sa forme que nous pratiquons, la musique tonale, de l'essentiel du répertoire du 19e, 18e, 19e siècle et même avant. Et ça, c'est un mouvement, ce rêve des avant-gardes, il s'est rompu. Donc, on a réouvert le jeu et beaucoup de choses existent et coexistent. Est-ce qu'elles sont moins créatives qu'avant? Pas du tout. Simplement, le jugement, c'est une tour de Babel. Chacun parle un langage différent et on a renoncé à l'idée qu'on pourrait unifier la tour de Babel en faisant simplement une cathédrale avec une seule ou quelques voix, quelques principes stylistiques. Ça, c'est un point essentiel. En même temps, ces musiques savantes sont des musiques qui ont un public relativement restreint, et l'époque glorieuse des avant-gardes, c'était un langage qui était très difficile à comprendre. Les auditeurs disaient eux-mêmes qu'ils étaient passablement perdus, et Boulez, pour le nommer, disait « Je suis là pour vous rassurer, moi, je vous garantit que c'est intéressant. Si vous êtes suffisamment longtemps investi, soyez fidèle, vous finirez par être gratifié. » C'est ce qu'on appelle la gratification différée. Il faut rester fidèle longtemps.
C'était parfois très long d'ailleurs.
Et il y a un mécanisme très puissant qui est comme en psychanalyse. On n'est pas en psychanalyse un analysé, mais un analysant. Autrement dit, c'est l'auditeur qui doit faire le travail pour progresser, et c'est pas au compositeur de changer sa manière de travailler. Voilà des mécanismes intéressants. Mais ce sont des mécanismes qui fluctuent, parce que les créateurs aussi voudraient peut-être n'avoir pas tout le temps des gratifications différées de la part de leur public. Voilà des sujets qui sont très stimulants et très évocateurs.
Merci beaucoup à tous les deux de cette discussion extrêmement créative. Pierre-Michel Menger, Carole Talon-Hugon, merci également à celles et ceux qui ont préparé cette émission. Juliette Moëlic, Stéphanie Villeneuve, Diane de Vancey, Antoine Héral. À suivre après le journal, une question: se relève-t-on, peut-on même se relever d'une trahison ?